Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir à tous. Début d'une semaine de débat exceptionnel à 6 jours du second tour de la présidentielle. Second tour de scrutin qui oppose, faut-il le rappeler, Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Chaque soir de cette semaine, nous nous arrêterons sur un grand thème de campagne. Sécurité, économie, éducation et aujourd'hui, Europe. C'est l'un des grands clivages qui sépare les deux candidats. D'un côté, Marine Le Pen, l'eurosceptique, souverainiste qui se félicite du Brexit, fait campagne depuis des années d'ailleurs contre l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui. De l'autre, Emmanuel Macron, l'europhile, qui se dit résolument européen, le répète, est un partisan d'un approfondissement de la construction européenne. Symbole de cette opposition de fond, Emmanuel Macron s'exprime désormais publiquement devant les drapeaux français et européens, tandis que Marine Le Pen demande que le second soit retiré. Un point commun toutefois entre les deux candidats, les deux refusent le statu quo et veulent des évolutions. Alors Europe, le duel des programmes, c'est notre grand débat de ce soir. Bienvenue. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Ils sont tous deux économistes. Philippe Martin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur au département d'économie de Sciences Po, conseiller économique d'Emmanuel Macron. En face de vous, Philippe Murer, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vous aussi conseiller économique, mais de Marine Le Pen. Alors, je voudrais justement qu'on commence par le point numéro 1 du programme de votre candidate Philippe Murer. Je la cite. Marine Le Pen veut négocier une restitution de la souveraineté monétaire, législative, territoriale et économique du pays. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que Marine Le Pen veut remettre à plat tous les traités européens d'aujourd'hui?
Oui, complètement. Ce que ça veut dire, c'est ça veut dire qu'on veut une Europe des nations et des libertés, donc pour retrouver toutes ces souverainetés. Et pour quelle raison on veut cela? C'est parce que l'Union européenne, en fait, c'est aujourd'hui un libre-échange généralisé qui crée énormément de délocalisation. C'est une monnaie trop chère qui pose un problème industriel majeur à la France avec 1 million d'emplois détruits. C'est aussi une financiarisation. Puisque l'euro crée une financiarisation et fait qu'on peut se financer que sur les marchés financiers, il n'y a aucune règle pour qu'on prête plus aux PME qu'à l'économie spéculative. Donc tout ça,
donc
ça
il
crée
faut une... comprendre que les problèmes que traverse aujourd'hui
la France
de la zone euro, c'est à cause de l'euro, c'est pas les politiques.
Pas seulement l'euro, c'est aussi le libre-échange. Et le libre-échange, c'est l'ADN de l'Union européenne généralisé à outrance, à excès. Et ça a créé une société toxique, une société qui est complètement fratricide. L'ubérisation étant la toxicité absolue, puisque ce sont les taxis qui se battent contre les VTC. Les VTC qui se battent contre les taxis et personne n'est heureux et il y a destruction de pouvoir d'achat au bénéfice de simplement quelques petites sociétés contre le qui est, par exemple, comme Uber, qui récupère 25% des courses de taxis, ce qui n'a aucun sens.
Donc, renégocier tous les traités, mais est-ce que ça ne veut pas dire les vider de leur substance? Est-ce que ça ne veut pas dire finalement que Marine Le Pen souhaite un Frexit? C'est quoi une autre Union européenne si vous dites qu'elle est basée sur le libre-échange et que vous ne voulez pas?
La France est le cœur politique de l'Europe. Et si vous suivez les débats en Italie, l'Italie est très près des positions de Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'il y a un débat très fort sur les positions de Marine Le Pen, effectivement, en Italie aussi, parce que l'Italie souffre énormément comme la Grèce, l'Espagne et un tas d'autres pays. Donc effectivement, on veut des coopérations libres, celles qui ont marché, hein, c'est-à-dire Ariane, qui est au départ un projet entre quelques pays européens, Airbus, qui est un projet français qui finit par s'allier avec l'Allemagne avec d'autres projets, à l'opposé du projet Galileo, qui a coûté 4 fois plus cher que prévu, qui a duré 10 ans de plus et qui est un échec total.
Donc on réduit les coopérations au minimum.
Non, on fait des coopérations libres. Libres, c'est ça qui est important, mais on va certainement pas les réduire.
Emmanuel Macron, lui, a une autre vision. Alors peut-être que je caricature, vous me dites, mais c'est pas moins d'Europe, c'est plus d'Europe. Au contraire, pour ce faire, le candidat En Marche veut tenir des conventions démocratiques dans les 27 États de l'Union avant la fin de l'année. Comment ça va fonctionner? Quelles sont les priorités pour vous du renforcement de cette Europe, Philippe Martin?
L'Europe, c'est vrai, dans les dernières années, s'est éloignée des citoyens. C'est-à-dire qu'elle est devenue, aux yeux de beaucoup d'Européens, et de Français en particulier, trop technocratique, trop loin de la vie quotidienne des Français et en particulier elle n'apparaît pas suffisamment protectrice. Donc ce que Emmanuel Macron veut faire en effet c'est refonder l'Europe à la base de ces conventions démocratiques, c'est-à-dire d'aller vers les citoyens et leur demander qu'est-ce qu'ils veulent dans l'Europe et des choses très concrètes. Donc c'est par exemple renforcer Erasmus qui est une grande réussite, mais par exemple aller vers
d'échange pour les étudiants,
exactement, mais aller par exemple vers un Erasmus pour les apprentis. C'est aussi par exemple la protection des données numériques, qui est à mon avis un enjeu extrêmement important. C'est aussi donner plus de protection, et il l'a fait en tant que ministre de l'industrie, sur par exemple le dumping. Il faut que l'Europe soit plus forte en termes de commercial vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de l'Inde, et donc en effet mettre mettre des tarifs anti-dumping beaucoup plus rapides, beaucoup plus importants. Il l'a fait quand il était, il a porté ce débat quand il était ministre de l'Industrie, et avec une certaine réussite, hein, puisque maintenant, en particulier les importations d'acier et le dumping chinois sur le marché européen s'est effondré. Donc il faut aller beaucoup plus loin, il faut montrer que l'Europe souveraine, avec sa souveraineté forte, doit être aussi protectrice. Et de ce point de vue, il faut en effet aller beaucoup plus proche des citoyens.
Donc vous partagez le constat, l'Europe ne fonctionne pas telle qu'elle, il faut la renforcer.
Elle ne fonctionne pas suffisamment bien et suffisamment proche des citoyens. Et donc il faut avoir une Europe plus protectrice. Mais de ce point de vue, nous, c'est pas moins d'Europe, c'est mieux d'Europe. Parce que nous considérons que la meilleure manière pour la France d'être forte dans la mondialisation, dans le monde, parce qu'on va pas sortir de la mondialisation et du monde, c'est d'avoir une Europe forte.
Alors, il y a un sujet, évidemment, qui cristallise un petit peu ces oppositions, c'est celui de l'euro. L'avenir de la monnaie unique oppose frontalement les deux candidats que vous représentez ce soir. Point 35 du candidat de Marine Le Pen, partons des programmes. Rétablissement d'une monnaie nationale pour soutenir la compétitivité. Un projet qui a pris un peu un coup dans l'aile, comme on dit, avec le ralliement de Nicolas Dupont-Aignan. C'était un petit peu moins clair ce week-end. Alors, Philippe Murer, concrètement, comment ça va se passer, ce passage de l'euro au franc? Est-ce qu'il y aura que le franc et l'euro, pour faire quoi?
Ça se passera aussi facilement que quand on est passé du franc à l'euro, parce qu'on nous explique que ça va être hyper compliqué de passer de l'euro au franc, alors que le franc à l'euro, vous avez bien vu que c'était absolument pas un problème. C'est vrai que la clé de tout cela, c'est qu'on a un problème de compétitivité en France. Et le projet d'Emmanuel Macron, c'est effectivement plus de lois travail, d'ailleurs par ordonnance, donc moins de protection sociale, un droit du travail revisité, une baisse des salaires, et en fait, à l'opposé, parce que ça permet de rétablir la compétitivité. À l'opposé, nous, on a une manière très douce. C'est une dévaluation de notre monnaie par rapport à l'Allemagne, qui est le pays qui nous pose le plus de problèmes en termes de compétitivité. Et à ce moment-là, si vous avez une monnaie française 20% plus faible qu'aujourd'hui par rapport à l'Allemagne, qu'est-ce qui se passe? C'est que les Peugeot vont se vendre comme des pipins, alors que les Volkswagen fabriqués en Allemagne auront énormément de mal à se vendre. Toutes choses égales par ailleurs. Et on le voit avec le Royaume-Uni qui a vu sa monnaie baisser de 15%. Ça lui a permis de voir ses exportations exploser de 15 à 20%. Et donc, ça ramène de la croissance. C'est une manière très douce de ramener de la croissance. Voilà pourquoi c'est essentiel. Et puis aussi réguler la finance. Parce qu'en fait, l'euro, nous, on veut que les banques soient défavorisées quand elles vont prêter, faire de l'activité spéculative dans les marchés financiers qui servent à rien, et qu'elles soient favorisées quand elles prêtent aux PME. Et ça, la Banque de France pourra le faire, alors que l'Union européenne ne le veut pas. Et moi, j'ai une question à Philippe Martin.
Alors attendez, c'est moi qui pose les questions. Je vais d'abord faire réagir Philippe Martin.
J'en poserai une après.
Sur le lien entre l'euro et la compétitivité, comment vous positionnez en marche?
Mais il y a un problème de compétitivité en effet de la France. Je pense que tous les économistes sont d'accord. Sauf que je vous rappelle que quand même l'euro s'est déprécié par rapport au dollar, par rapport à beaucoup d'autres monnaies. Donc dire que l'euro est trop fort, c'est pas tout à fait vrai. Il y a eu quand même une forte dépréciation. Et par ailleurs, il y a d'autres pays qui sont dans l'euro, qui partagent notre monnaie et qui sont très forts dans la mondialisation. Donc le problème de compétitivité de la France, c'est pas simplement qu'on a des salaires trop élevés, parce que il faut quand même dire, une dévaluation, une dépréciation de la monnaie, c'est une baisse des salaires relativement au reste du monde, hein, il faut jamais l'oublier. Donc c'est pas le problème seulement de la compétitivité coût, c'est un problème de notre système d'éducation, de notre système de formation, de notre système d'apprentissage, c'est tout ce qu'on appelle la compétitivité hors coût, la qualité des biens sur lequel par exemple...
Donc le seul levier de la monnaie que propose le Fonds national est insuffisant,
non,
ou c'est pas le bon levier?
Non, ça n'est pas le seul. Et à l'intérieur de la zone euro, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de taux de change, on fait moins bien. Pourquoi? Parce que les Allemands, les Pays-Bas, d'autres pays ont actionné d'autres leviers qui sont le levier, encore une fois, de l'enseignement, de la formation. Et ça n'a rien à voir avec l'euro. Mais sur l'euro, moi, je pense qu'il y a quand même un problème essentiel dans les déclarations récentes de Marine Le Pen. Plus personne ne comprend sa position. Il y a eu trois phases. La première phase, ça a été « je sors de l'euro très rapidement » et elle disait même le 27 mars sur Europe 1, « si on ne sort pas de l'euro très rapidement, je ne peux pas appliquer 70% de mon programme ». Ensuite, on a l'alliance avec Dupont-Aignan et là, maintenant, retour en arrière, non, finalement, on va peut-être pas sortir de l'euro. Et la troisième phase, qui est la plus surréaliste, qui est « on va avoir deux monnaies ». On va avoir une monnaie pour les grandes entreprises exportatrices internationales et Donc les PME qui exportent, elles vont être défavorisées. Je rappelle quand même qu'il y a 90% des exportateurs, alors, c'est des PME. Donc ça devient totalement surréaliste,
alors,
on ne comprend rien.
Là-dessus.
Et il n'y a pas d'autres pays dans le monde où on a deux monnaies légales.
Si,
ça n'existe pas.
Si.
Oui, Cuba. Cuba, non, non. Cuba est un très bon exemple. Je ne sais
qu'est-ce
pas si
vous
c'est
vous
votre exemple.
Alors, Philippe Murat, caricaturé.
S'il vous plaît, pas d'insulte. Vous n'êtes
Cuba,
pas d'accord.
Cuba, excusez-moi,
je ne connais pas d'autres. Je connais pas d'autres pays.
C'est tellement mensonger.
Quels sont les autres pays?
C'est tellement mensonger que la France, à une période, avait deux monnaies, avait la monnaie, effectivement, le franc, et en même temps, un écu qui, sur
ça
lequel
n'était
on
pas
pouvait,
une monnaie.
Si, attendez, on pouvait emprunter, on pouvait emprunter, l'État pouvait emprunter, les entreprises pouvaient emprunter, et il y avait des emprunts, si possible. Donc, on a dit, soit, effectivement, on retrouve une, on fait une monnaie commune pour équilibrer nos échanges avec une baisse du franc par rapport au marque, ça serait exactement la même chose, soit on retrouve tout simplement le franc ou le marque. Mais de toute manière, on ne veut plus de l'euro comme cela. Moi, je vais vous dire.
Donc, c'est quand même l'un ou l'autre, là, vous n'êtes pas très clair. Vous nous dites qu'il y a deux possibilités.
Mais ça revient au même, de toute manière, on aura le franc, quoi qu'il arrive, et le franc qui sera déprécié, parce que je vais vous dire, vous dites une baisse de pouvoir d'achat. Mais quand De Gaulle a fait une dévaluation de la monnaie, il n'y a pas eu de baisse de pouvoir d'achat, il y a eu 3,5% de croissance après, par la suite, pendant toute la décennie, une décennie remarquable où la France a brillé, justement.
Mais c'est tout de même important, la question de la temporalité, parce que, par exemple, la politique agricole commune, qui est une grande partie, évidemment, de la politique européenne, vous vouliez la financer par une sortie de l'euro. Alors, si vous ne sortez pas tout de suite, comment vous financez le reste de votre programme?
Ah non, non, mais en fait, la politique agricole commune, c'est 9 milliards que la France donne à l'Union européenne et qui lui est restitué après, puisqu'on donne un budget très important, 22 milliards à l'Union européenne, et qu'on en récupère 13, dont 9 pour la politique agricole commune. Donc, ça pose aucun problème de financement. Si on ne donne pas les 9 milliards à l'Union européenne, on les donnera directement.
Mais quand est-ce
à
que
nos...
vous sortez de l'euro, alors?
Eh bien,
comment
un référendum
vous le faites
de 6 mois.
Concrètement, comment vous le faites?
Concrètement, on négocie notre souveraineté et nos souverainetés. Si nos partenaires ne sont pas d'accord.
Très concret. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez mettre des restrictions
si vous voulez. Non,
sur les
mouvements
de capitaux,
laisse-moi finir.
Sur les retraits,
non,
sur les banques.
Non, pas du tout.
S'il vous plaît, Philippe Murer, quelle temporalité?
On négocie pendant 6 mois et après 6 mois, on fait un référendum parce que nous, contrairement à vous, vous voulez donner des souverainetés de la France en faisant un ministère des finances de la zone euro. Donc, Emmanuel Macron va être président pour donner la possibilité de faire un budget à la zone euro et tout cela. Est-ce qu'il va demander un référendum? Parce qu'Emmanuel Macron nous appelle extrême droite, ce qui est purement scandaleux, mais est-il démocrate et propose-t-il un référendum sur ses souverainetés qu'il transfère? Est-ce qu'il fait un référendum?
C'est les sujets des
D'accord, nous ne sommes plus démocrates que vous parce que nous faisons des référendums.
Alors, on va passer au sujet du libre-échange, puisque je crois que sur l'euro, on a bien compris que vous n'étiez pas du tout d'accord. Alors, on l'a évidemment effleuré avec cette question de l'euro. C'est là aussi l'un des thèmes de campagne de Marine Le Pen, la lutte contre la mondialisation. Là, on a beaucoup parlé lors de ces derniers meetings, avec par exemple le refus des traités de libre-échange, le TAFTA comme le CETA. Est-ce que c'est une position de principe, Philippe Murer, contre le libre-échange? J'ai l'impression que c'est ça, d'après ce que vous nous disiez tout au début. Ou est-ce que c'est contre la manière dont ont été négociés ou sont en train d'être négociés ces traités?
Non, en fait, il y a deux positions inverses. C'est l'autarcie totale, où vous échangez plus, et le libre-échange absolu, où vous avez quasiment des droits de douane zéro, ce qui est le cas aujourd'hui. Or, on voit que le monde est en train de prendre une autre direction. Il s'est passé quelque chose de majeur, c'est que Donald Trump a dit qu'il voulait renégocier la très grande zone de libre-échange, où il y a énormément d'échanges, qu'ils appellent l'ALENA, entre les USA, le Canada et le Mexique. Parce qu'il en a marre d'avoir, les États-Unis en peuvent plus, d'avoir beaucoup de délocalisation d'emplois industriels au Mexique. Donc, en fait,
alors,
on vient...
Que tous les industriels ne sont pas d'accord aux États-Unis sur la réforme de cette l'ALENA.
Oui, non, mais ça, c'est pas aux industriels de discuter, de le dire. C'est à la puissance publique qui représente les industriels et les salariés. C'est ça, la démocratie.
Poursuivez.
Or, justement, Emmanuel Macron est complètement à contre-courant, alors que Marine Le Pen est dans la nouvelle vague qu'il se passe, où il y aura plus de protectionnistes. Puisqu'il y aura plus de protectionnistes par la première puissance mondiale.
Mais est-ce que plus de protectionnisme, ce n'est pas un renchérissement d'un certain nombre de produits? La France n'est absolument pas autosuffisante dans nombre de secteurs. Est-ce que du coup, les Français ne vont pas plus payer des produits qu'ils payaient moins grâce à ces traités de libre-échange?
En fait, tout cela, ça se fera doucement. Chaque fois qu'on produira, qu'on mettra un peu de taxes, et on le fera progressivement, et qu'on récupérera de la production sur le sol français, on récupérera des emplois. Mais nous, ce qui nous inquiète encore plus dans les traités de libre-échange actuels, c'est le CETA, pour lequel Macron est d'accord. Or, le CETA, il dit que les multinationales ont le droit.
Il a dit à l'instant sur le CETA qu'il allait monter une commission parce qu'il avait entendu les doutes sur la transparence.
Alors moi, je vais vous dire ce qu'il y a dedans et ce qui est absolument fou, et pour ça, c'est pour ça qu'on est complètement opposé. Les multinationales ont le droit d'attaquer les États si une réglementation change et ne leur va pas, et devant une justice privée composée d'avocats d'affaires. Voilà ce que veut Macron, et c'est totalement antidémocratique, complètement scandaleux de mettre une justice privée au-dessus de l'État.
Philippe Martin, sur ces traités de libre-échange, sur le CETA, sur le TAFTA, la position effectivement d'Emmanuel Macron est très très différente de celle de Marine Le Pen.
Elle est absolument différente. Sur les tarifs, puisque Marine Le Pen veut mettre des tarifs sur les importations. Appelons-les tout simplement des taxes sur la consommation de biens importés. Ce sont des taxes sur la consommation, donc bien entendu, les prix vont augmenter. Ça ne peut pas être autrement. Il n'y a pas de solution magique où on dirait on mettrait des taxes et ça n'aurait aucun impact. Par ailleurs, si vous mettez des taxes sur les importations d'un certain nombre de pays de l'Union européenne, puisque dans ce cas, on sortirait de l'Union européenne sur l'Allemagne, sur l'Italie, sur la Pologne, sur les États-Unis, etc. Évidemment, ces pays, il va y avoir de la rétorsion. Ce serait naïf de considérer que ces pays ne réagiront pas. Donc, bien entendu, ça signifie non seulement des taxes sur les importations.
Mais vous entendez quand même les critiques qui sont émises à l'égard du TAFTA et du CETA.
Des taxes sur les exportations. Et je rappelle qu'il y a 4 millions d'emplois qui sont directement liés aux exportations en France. Et donc, ça signifie qu'elle met gravement en danger 4 millions d'emplois en France. C'est très grave. Sur les traités de libre-échange. Bon, le TAFTA, il est mort, il est clair. Et de toute façon, il ne nous allait pas, puisque les Américains n'étaient pas prêts, en effet, à faire un certain nombre de concessions.
Donc, sur le CETA, qui lui continue de vivre.
Sur le CETA, Emmanuel Macron a dit en effet qu'il y avait un certain nombre de choses. La manière dont ça a été négocié n'est pas admissible. N'est pas admissible parce que, en effet, en particulier les ONG n'ont pas été suffisamment impliquées et ça n'a pas été fait de manière suffisamment démocratique. Donc ça, il l'a dit très clairement. Sur le problème des tribunaux, bon, on n'est pas d'accord, on s'est déjà disputé sur le sujet, ça n'est pas vrai. Il y a eu des progrès qui ont été faits. Aujourd'hui, ces tribunaux ne pourront pas mettre en cause des réglementations qui sont prises, en particulier sur le thème environnemental, par les pays qui sont dans le CETA. Et par ailleurs, on parle du Canada, c'est-à-dire c'est pas un pays qui a des préférences en termes politiques, sociales, environnementales. Ils ont signé la COP21, qui sont totalement opposés aux nôtres. Donc, si on n'est pas capable d'avoir
une forme de convergence, et donc on peut discuter.
Mais si on n'est pas capable d'avoir du commerce avec le Canada, avec qui on va commercer? Je veux dire, ça ne peut pas être un ennemi, le Canada.
On peut commercer sans du tribunal d'arbitrage.
Alors, je voudrais juste qu'on dise quand même un mot, il nous reste plus que 2 minutes, sur la directive sur les travailleurs détachés, qui favorise donc la libre circulation des personnes, enfin, qui a été créée en 96, et donc aux salariés. Elle accorde des droits minimums aux travailleurs qui sont concernés. Marine Le Pen veut l'abroger. Est-ce que ça ne risque pas tout de même de pénaliser, par exemple, les travailleurs français détachés en dehors de l'Europe, Philippe Murray?
Non, parce que, en fait, il y a deux types de travail détaché. Il y a le type de travail détaché par les coûts. Effectivement, quand un Roumain vient travailler en France, il paye des charges sociales en Roumanie, donc il abonde pas la sécurité sociale. Et en plus, ces charges sociales sont beaucoup plus faibles qu'en France. Donc, du coup, il vaut mieux embaucher un travailleur roumain dans le bâtiment plutôt qu'un travailleur français. Donc, ça pose un problème de concurrence complètement folle. En plus de ça, il y a énormément de fraude, puisque le travailleur roumain que vous payez 4 fois plus.
Mais est-ce qu'on supprime un dispositif parce qu'il y a de la fraude? Est-ce qu'on lutte pas plutôt contre la fraude?
Non, le problème, il est simplement de privilégier l'embauche de travailleurs étrangers en France puisqu'ils sont moins chers. Et donc, il y en a 300 000, il y en a 200 000 au niveau de la fraude. Et nous, même les Républicains ont proposé la clause Molière. C'est-à-dire de dire, sur un chantier, on doit pouvoir parler français. Eh bien, la Commission européenne et l'Union européenne est tellement sourde et aveugle et incapable de se réformer qu'elle a dit non. Vous n'avez pas le droit d'obliger à parler français en France.
Alors, sauf que des négociations sont quand même en cours. Et là-dessus, Emmanuel Macron veut réviser cette directive. Dans quel sens,
Philippe? Il veut la rouvrir parce qu'en effet, il y a un problème sur la fraude. Et de fait, c'est lui qui a mis en place la carte d'identité BTP pour justement lutter mieux contre la fraude. Il a augmenté les amendes, c'était la loi Macron 1, et qui est donc en train de se mettre en place. Et en effet, il veut rouvrir la directive pour diminuer en particulier le temps, parce que c'est une des variables clés sur lesquelles la durée pour lesquelles les travailleurs détachés
peuvent
passer de 2 ans à 1 an sur cette question. Et je rappelle aussi, parce que c'est très important, en effet, il y a plus de 100 000 travailleurs détachés français, et donc l'abroger, ça ne règle pas le problème des travailleurs illégaux, mais ça empêche beaucoup de Français d'aller travailler en Europe.
Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir participé à ce débat. Philippe Martin, soutien d'Emmanuel Macron, Philippe Murer, soutien de Marine Le Pen. Merci également à Florence Pons, à Valentin Vaner. Prochain débat sur l'éducation, ce sera mercredi. Bonne soirée à vous.